La rébellion silencieuse, Eric Vogel et l'alchimie du sel industriel. Où la chimie industrielle rencontre la simplicité radicale dans un monde conçu pour l'obsolescence. La silhouette délavée d'un camping-car de 1990 reposait sous la lueur fragmentée des panneaux solaires, ses ailes déployées comme les écailles d'un titan endormi. C'était le laboratoire roulant d'Eric Vogel, un témoignage mobile d'une révolution silencieuse qui vrombissait dans ses entrailles. À l'intérieur, le chaos se pliait à l'ordre. Des tomes usés par le temps s'alignaient sur une étagère, les bibles électrochimiques d'un artisanat en voie de disparition. Electrochemical System de Newman, moderne batterie de Vincent et Scrozati, le tentaculaire compendium industriel de Crompton. Caché parmi eux se trouvait The Waste Makers de Vance Packard, une prophétie cinglante sur l'obsolescence programmée qui a façonné la rébellion d'Eric. Le camping-car était plus que nomade, c'était une preuve de concept. Alimenté par un petit banc de cellules à eau salée construite à partir de boîtiers de batteries de chariots élévateurs mis au rebut, c'était un avant-poste autosuffisant, une déclaration d'indépendance vis-à-vis du réseau. Mais la véritable révolution, le plan pour un avenir différent, prenait racine juste au-delà de sa trappe. Le laboratoire du jardin. Dans ce que d'autres pourraient appeler un jardin, mais qu'Eric considérait comme son terrain d'essai, l'avenir prenait une forme concrète. Des seaux. Des seaux en plastique industriel 40 litres chacun, empilés et configurés comme les cellules d'un vaste organisme endormi. Pas les boîtiers réutilisés de son installation mobile, mais quelque chose de plus fondamental, de plus évolutif, des bacs utilitaires, des récipients fonctionnels qui parlaient le langage des ateliers et des chantiers de construction. 48 seaux disposés en série 48 volts pour nourrir la gueule affamée d'un onduleur connecté au réseau. L'onduleur lui-même était un chef-d'œuvre d'ironie d'entreprise, conçu pour s'interfacer avec des Tesla Powerwall coûtant des dizaines de milliers, il allait plutôt s'abreuver du voltage du banc de batterie le plus humble que l'on puisse imaginer. Des seaux remplis d'un élixir de sel d'Epsom industriel, des électrodes fabriquées à partir de fournitures de plomberie, et une chimie plus ancienne que le système des brevets. La conception des électrodes était le chef-d'œuvre silencieux d'Eric, des tubes concentriques. Un tube en aluminium niché à l'intérieur d'un tube en zinc, séparés par un espacement précis, tous deux montés sur un pivot central en acier qui parcourait toute la profondeur de chaque seau. Le pivot permettait de soulever l'ensemble de l'assemblage d'électrodes pour le nettoyage, l'inspection et le remplacement. Pas de soudure. Pas d'outils spécialisés. Juste de la tige filetée et des tubes industriels, d'une élégance dans sa simplicité essentielle. Le tube de zinc extérieur en réalité, un tuyau de drainage ondulé offrait une surface massive pour la réaction d'oxydation. Le tube d'aluminium intérieur, perforé pour la circulation de l'électrolyte, servait de cathode. Entre eux, 40 litres de solution saturée de sulfate de magnésium créant une autoroute ionique pour le voyage des électrons. Chaque seau, 1 volt. 48 seaux, 48 volts. Les calculs étaient anciens, les matériaux étaient courants, mais les implications étaient révolutionnaires. La fondation en béton en dessous racontait sa propre histoire de guerre chimique du béton cellulaire infusé de mousse minérale, imperméable à la chimie corrosive située au-dessus. Non pas peint ou enduit, mais moléculairement blindé contre les solutions salines qui dévoreraient le béton conventionnel comme de l'acide. Chaque seau était niché dans sa propre dépression, stable en cas de séisme, résistant aux intempéries, permanent comme la géologie. Eric s'agenouilla à côté de l'une des cellules prototypes, soulevant l'assemblage d'électrodes par son pivot central. Les tubes concentriques émergèrent, dégoulinant de saumure, l'aluminium brillant comme de l'argent sous la lumière du matin, le zinc affichant la patine honnête du métal au travail. C'était la technologie en tant qu'artisanat, en tant qu'art, en tant que rébellion contre la tyrannie de la boîte noire de l'ingénierie d'entreprise. Là où le Powerwall de Tesla cachait sa chimie derrière de l'acier soudé et un logiciel propriétaire, le système d'Eric invitait à l'inspection, à la compréhension, à la réparation. Là où le lithium exigeait un recyclage spécialisé et des protocoles pour matières dangereuses, ses composants pouvaient être nettoyés au jet d'eau et reconstruits dans n'importe quel garage avec des outils de base. Le manifeste en chiffres. L'ordinateur portable d'Eric affichait les mathématiques hérétiques du système stationnaire. Système stationnaire, laboratoire du jardin. 48 cellules en série, seaux industriels de 40 litres. Tension de cellule, 1.0 V nominal, électrode à tube concentrique. Tension du système, 48.0 V DC, compatible avec onduleur connecté au réseau. Capacité, 800 ampères-heure. Stockage total, 38.4 kWh de capacité à l'échelle industrielle. Coût des matériaux pour le système de 38.4 kWh. 48 fois seau de 40 litres, 240 euros. Tube au grillage en aluminium, 250 euros, fourniture de plomberie. Tube aux plaques en zinc, 160 euros, fourniture navale industrielle. Sulfate de magnésium, 120 euros, 5 sacs agricoles de 25 kg. Quincaillerie et montage, 180 euros, tige filetée, pivot, raccord. Coût total du système, 950 euros. Comparez cela au stockage commercial équivalent, un seul Tesla Powerwall, 13,5 kWh, coûte 8000 euros. Le système de 38,4 kWh d'Eric fournissait près du triple de la capacité pour moins d'un huitième du coût. Les chiffres n'étaient pas seulement convaincants, ils étaient révolutionnaires. Le scandale plus profond était temporel. Les batteries au lithium arrivaient avec des certificats de décès, 3000 à 5000 cycles de charge, avec une dégradation inévitable. Les batteries au sel d'Eric, cependant, étaient conçues autour de la permanence. Les anodes en zinc devraient éventuellement être remplacées, mais les cellules elles-mêmes étaient immortelles, une architecture, pas des consommables. Le fantôme dans la machine. La lumière du matin peignait la scène de cuivre et de chrome. Le petit panneau solaire du camping-car s'occupait déjà de sa batterie interne, un écosystème autonome. Mais la véritable puissance dormait dans le jardin. 48 cellules buvant la lumière du soleil matinal à travers un panneau de 3,2 kW monté au sol, alimentant la gueule affamée de l'onduleur connecté au réseau. Le système stationnaire avait consommé 8,4 kWh pendant la nuit, alimentant la maison, l'atelier et le laboratoire, passant de 48,0 volts à 44,8 volts sur ces océaniques 800 ampères-heure. Un changement à peine perceptible. En milieu d'après-midi, le gigantesque banc de 38,4 kWh serait de nouveau plein, prêt pour la nuit. Son efficacité aller-retour était de 85%, un compromis négligeable pour une réparabilité quasi infinie et un coût de construction qui pulvérisait les normes de l'industrie. Plus important encore, ces courbes d'efficacité restaient plates sur des plages de température où les systèmes au lithium trébucheraient et tomberaient en panne. L'économie de l'hérésie. La véritable subversion était économique. La technologie d'Eric ne pouvait pas être brevetée, la chimie était du domaine public, les matériaux des produits de base, les processus de fabrication reproductibles n'importe où. Le sulfate de magnésium était un minéral agricole. Le zinc et l'aluminium étaient des piliers de l'infrastructure moderne. Une technologie véritablement démocratique. Ce qui la rendait économiquement radioactive dans un monde construit sur la rareté artificielle. La capitalisation boursière de 100 milliards de dollars de l'industrie du lithium dépendait de chaînes d'approvisionnement contrôlées, de formulations propriétaires et de cycles de remplacement conçus pour maximiser les revenus. Les batteries au sel d'Eric menaçaient cet écosystème en offrant des performances comparables à partir de matériaux abondants avec une réparabilité indéfinie. Pas étonnant qu'elles soient restées enfouies dans les publications universitaires. Plongée technique, la chimie de la révolution. Les réactions électrochimiques qui alimentaient la rébellion d'Eric étaient d'une élégante simplicité. À l'anode de zinc, oxydation. ZnZn plus 2. À la cathode d'aluminium, réduction. Al plus 3 Al. Dans l'électrolyte, transport d'ions. MgSOMg plus SO. La solution de sulfate de magnésium fournissait la conductivité ionique tout en restant stable, sûre et non corrosive. Le défi critique, la passivation de l'aluminium. Contrairement au cuivre, l'aluminium forme de fines couches d'oxyde qui entravent le transfert d'électrons. La solution d'Eric était un entretien périodique. Mais ce n'était pas une corvée fréquente. Avec une durée de vie de 2000 à 3000 cycles profonds, les cathodes ne nécessitaient un sablage pour restaurer leur activité de surface que tous les 5 à 7 ans d'utilisation quotidienne. Un petit prix à payer pour des économies massives et une immortalité technologique. L'inertie d'un système à 1 milliard de dollars. Le défi pour cette technologie n'est pas une question de malveillance, mais d'inertie. L'industrie existante des batteries est une merveille d'optimisation, un écosystème de plusieurs milliards de dollars réglé pour le ballet complexe de la chimie du lithium. Des usines représentant des investissements colossaux sont outillées pour des processus spécifiques et propriétaires. Pivoter vers une chimie fondamentalement différente et plus simple ne serait pas un ajustement mineur, ce serait une refonte complète, un risque en capital colossal sans voie claire vers des rendements trimestriels. De vastes portefeuilles de brevets et des décennies de propriétés intellectuelles, le fondement même des valorisations boursières, sont tous ancrés dans ce paradigme spécifique. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, méticuleusement construites autour de matériaux spécifiques, représentent un immense investissement géopolitique et en capital. La simple chimie du sel et du métal ne combat pas un méchant, elle pousse contre l'immense attraction gravitationnelle de l'ordre économique établi. Elle suggère un chemin différent dans un monde qui a déjà pavé une autoroute à plusieurs voies dans une autre direction. La question n'est pas de savoir si le nouveau chemin est viable, mais si un système si lourdement investi dans sa trajectoire actuelle à l'agilité ne serait ce que d'envisager un virage. Tard dans la nuit, Eric ouvrait The Wastemakers. Le livre, écrit en 1960, avait prédit son monde, un monde où la simplicité était souvent en contradiction avec le profit, où la durabilité pouvait menacer les modèles de revenus établis, où la réparabilité était une caractéristique souvent perdue dans la poursuite du prochain cycle de mise à niveau. Le complexe industriel du lithium n'était pas un accident, c'était le résultat logique d'un système privilégiant une propriété intellectuelle complexe et des chaînes d'approvisionnement contrôlées, ce qui conduit naturellement à des produits à durée de vie définie. La révolution ne viendrait pas des salles de conseil confrontées à cette inertie. Elle se propagerait tranquillement, une batterie au sel à la fois, à travers les makerspaces et les communautés rurales où les gens construisaient ce dont ils avaient besoin plutôt que d'acheter ce qu'on leur vendait. L'aube silencieuse. Alors que le matin approchait, Eric se préparait pour une autre journée. Son camping-car, alimenté par son propre petit vrombissement, était prêt à partir. Mais le véritable moteur de son voyage était le géant silencieux dans le jardin, 38,4 kWh de lumière solaire stockée prêt à alimenter une maison, un atelier, une idée. Pas d'angoisse de l'autonomie. Pas de vulnérabilité dans la chaîne d'approvisionnement. Juste la patiente chimie du sel et du métal faisant ce qu'elle a toujours fait. Son camping-car était plus qu'un véhicule, c'était une démonstration roulante initiale, puis le perfectionnement de l'idée que des solutions simples existaient. Que l'abondance était possible. Que la technologie pouvait servir les besoins humains. Sous terre, le futur se déroulait déjà. En surface, le monde ne l'avait tout simplement pas encore remarqué. Eric sourit, démarra le moteur et roula vers demain à un messager de la rébellion silencieuse qui vrombissait dans son propre jardin. Spécifications techniques et données de performance. Système de batterie stationnaire, laboratoire du jardin. Capacité totale, 38,4 kWh, 8 sens à 48 V. Configuration, 48 cellules en série, seaux industriels de 40 litres. Tension de cellules, 1,0 V nominal, couple zinc-aluminium. Tension du système, 48 VDC, compatible avec onduleur connecté au réseau. Durée de vie en cycle, 2000 à 3000 cycles profonds, 80% DOD. Type de contenant, seau en plastique industriel de 40 litres. Conception des électrodes, système de tubes concentriques, zinc extérieur, aluminium intérieur. Coût total du système, 950 €, matériaux uniquement. Coût par kilowattheure, 25 € vs 6 sens € plus pour le lithium commercial. Température de fonctionnement, moins 20 degrés Celsius à plus 50 degrés Celsius. Efficacité aller-retour, 85 à 87%. Chimie de l'électrolyte. Solution de base, sulfate de magnésium heptahydraté saturé, MgSO7HO. Source, sel d'Epsom de qualité agricole. Stabilité du pH, 6,8 à 7,2, neutre, non corrosif. Profil de sécurité, qualité alimentaire, sans danger pour l'environnement. Exigence de maintenance. Mensuel, nettoyage des bornes, vérification de la tension. 2000 à 3000 cycles, 5 à 7 ans, remplacement de l'électrode en zinc, remise à neuf de la cathode en aluminium, sablage. Outil requis, outil à main de base, multimètre, mécanisme de levage à pivot. Note de l'auteur, Eric Vogel est un personnage de fiction, mais son archétype existe dans d'innombrables ateliers, garages et makerspaces à travers le monde. Les technologies décrites sont réelles, la chimie est solide, et l'analyse économique est basée sur les données actuelles du marché. Les obstacles à la mise en œuvre ne sont pas techniques mais institutionnels, un témoignage de la manière dont la possibilité technologique croise les structures de pouvoir économique. Chaque élément du système d'Eric a été documenté dans la littérature universitaire ou démontré par des passionnés de DY. La révolution n'est pas à venir, elle est déjà là, attendant sous nos yeux.